Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Mais avant de plonger dans l'espace profond, elle ne s'est jamais démodée depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Elle a su captiver son public et toujours rester d'actualité. C'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé.
Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences.
Et pour commencer le premier sujet de cette semaine, eh bien on n'est pas loin de la science-fiction puisqu'il y a bien des jets de vapeur sur Europe, l'une des lunes de Jupiter, l'un des lieux les plus prometteurs du système solaire pour chercher de la vie extraterrestre.
La NASA l'a annoncé formellement durant une conférence de presse ce lundi. Il y a bien des geysers, dit aussi scientifiquement des panaches sur Europe, l'une des lunes glacées de Jupiter. Alors cette publication dans le magazine Nature Astronomy confirme l'existence de ces puissants jets de vapeur jusqu'à présent observés à la limite de détection de différents télescopes, on va revenir, dont Hubble. Et ce qui est très passionnant dans cette affaire, c'est que cette confirmation, eh bien, elle provient de données collectées il y a plus de 21 ans par le magnétomètre et le spectromètre de la sonde Galileo, qui a survolé Europe, rappelez-vous, de 1995 à 2003. Et lors de l'un de ses survols à 200 km d'altitude au-dessus de la surface d'Europe, en décembre 1997, eh bien, il y avait des signaux qui étaient déjà bien là, mais les scientifiques manquaient non seulement d'informations, mais aussi de modèles sophistiqués pour leur donner du sens. C'est cette histoire très scientifique que m'a racontée Margaret Kivelson qui co-signe cet article. C'est elle qui, en 97, était chargée de travailler sur l'étude des relevés sur le champ magnétique d'Europe à partir des données fournies par Galileo, avec succès puisque c'est elle et son équipe qui, les premiers, ont proposé qu'il existait un océan subglaciaire sur Europe. Aujourd'hui, on sait qu'il est là. Alors, comment expliquer qu'elle n'ait pas vu l'existence de ces geysers ? Réponse.
L'idée qu'il existe un océan sous la surface glacée d'Europe expliquait une grande partie des changements que nous avions observés dans le champ magnétique. Mais il restait une inconnue sur un relevé précis de décembre 1997. C'était une variation très importante de fréquence, mais aussi d'orientation. Nous avons souvent réexaminé ces données au cours des années suivantes, mais nous n'avions aucune piste concrète pour tenter de l'expliquer. Mais au cours des années suivantes, la donne a changé. Il y a d'abord eu ces mesures faites par la sonde Cassini sur la lune de Saturne, Encelade, qui ont mis en évidence l'existence de jets de vapeur. Ça, c'était très important. Car même s'il s'agissait d'immenses jets, l'idée même qu'une lune glacée pouvait connaître ce type d'événement a été déterminante. Et puis, en 2015, il y a eu ces images prises par le télescope Hubble de la Lune Europe. Et sur certains de ces relevés, juste à la marge de la détection, on pouvait voir quelque chose qui ressemblait à un jet de vapeur, très localisé, qui nous a mis en alerte, et qui ressemblait un peu à un geyser.
Et c'est finalement lors d'une réunion consacrée à la sonde Clipper, à son lancement en 2022, qui doit survoler elle aussi à cette sonde, la Lune Europe, et bien que l'idée de revenir sur ces données a ressurgi.
Oui, parce que là on avait donc cette anomalie magnétique mentionnée lors de cette réunion par Margaret Kivelson. Et puis il y a une autre scientifique, Melissa McGrath, du SETI Institute, qui à ce moment-là se rappelle que sur certains clichés pris par Galileo il y a plus de 20 ans, et bien ça pouvait correspondre à un jet de vapeur. Les scientifiques ont alors l'idée d'aller voir les données de la sonde plasmique de Galileo au même moment. Et bien là, elle montre une anomalie que personne, pour le coup, en 20 ans n'avait repérée. Les éléments convergent et donc le physicien Xiang Jiujia, spécialiste des simulations et auteur principal de cet article, entre en scène.
On a affaire à une situation très complexe. L'atmosphère est très fragile et instable et ne cesse d'interagir avec l'environnement jovien. Toutes ces données devaient être quantifiées, caractérisées numériquement pour que nous puissions faire des simulations précises. Mon équipe, dans le Michigan, développe depuis plusieurs années un modèle d'interaction du plasma dans l'environnement d'Europe. On avait déjà ce modèle. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle possible pour ces jets de vapeur en se basant sur les informations assez sommaires que l'on avait grâce aux images du télescope Hubble. On a intégré ce modèle de jet de vapeur à notre modèle global de l'environnement d'Europe et on a regardé si l'existence d'un tel jet de vapeur pouvait fournir une explication cohérente avec ces anomalies qui apparaissaient dans les données relevées par Galileo. Et les résultats nous ont apparu tout à fait cohérents. Ces trois signaux différents perçus par Galileo en 1997 proviennent très probablement d'un jet de vapeur localisé sur Europe. C'est évidemment une information cruciale, surtout avec les prochaines missions prévues sur Europe, Clipper et JUICE. Ces deux missions vont venir très près de la surface de la Lune, avec des survols à moins de 50 km d'altitude. C'est une situation idéale pour analyser ces jets de vapeur, mesurer leur composition. Et c'est une opportunité importante pour en savoir plus sur la nature de l'océan intérieur d'Europe. Peut-être même qu'avec la mission de JUICE, nous serons en mesure de répondre à cette question cruciale : est-ce que l'environnement d'Europe est propice à la vie ?
En bref, la Maison-Blanche a supprimé un programme de la NASA qui consiste à surveiller les gaz à effet de serre.
L'administration du président Trump a discrètement tué le Carbon Monitoring System, a déclaré dans la revue Science un porte-parole de la NASA, qu'il qualifie d'attaque d'envergure contre la science climatique, et ce, sans fournir d'autres raisons que des contraintes budgétaires et des priorités plus pressantes. Je rappelle que ce programme CMS, d'un montant de 10 millions de dollars par an, cherche les sources d'émissions et les puits de dioxyde de carbone et crée des modélisations en haute résolution des flux de ce gaz à effet de serre sur la Terre.
Et je rappelle que c'est également le thème des Idées Claires de cette semaine. Les Idées Claires, un podcast et une vidéo toutes les semaines produit par Mes Soins pour France Culture et pour France Info autour donc cette semaine du réchauffement climatique. Est-il d'origine anthropique ? On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. En bref également, le français Jean-Loup Puget a décroché lundi le prix Chaud d'astronomie, prix qui est surnommé le prix Nobel asiatique, qui est doté d'un million de dollars.
La semaine dernière déjà, l'astrophysicien français qui est directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique spatiale et au département de physique de l'ENS avait déjà obtenu le prix Gruber de cosmologie qu'il partageait avec Nazareno Mondolesi pour leur travail sur la mission spatiale Planck, qui a étudié avec précision le fond diffus cosmologique. Le prix Chaud le distingue cette fois à titre personnel pour ce travail donc sur la mission Planck, mais aussi sur la proposition de la présence massive de grosses molécules d'hydrocarbures aromatiques dans le milieu interstellaire pour expliquer certaines raies d'absorption dans l'infrarouge, et puis aussi pour la mise en évidence d'un fond diffus infrarouge dans les données de la mission spatiale COBE.
Et enfin, selon plusieurs sources qui sont citées par le Canard enchaîné de cette semaine, la ministre de la Santé Agnès Buzyn exercerait des pressions pour que son mari Yves Lévy soit renouvelé à la tête de l'INSERM.
La ministre de la Santé, nommée en mai dernier, est l'épouse de l'actuel directeur de l'INSERM, et pour éviter tout conflit d'intérêts, elle a laissé par décret la gestion de l'INSERM à Matignon. L'année dernière, 8 mai, l'hebdomadaire satirique citant un proche de l'Élysée indique cette semaine qu'Agnès Buzyn mènerait déjà une intense campagne pour assurer la réélection de son mari à la direction de l'établissement public de recherche. Son mandat court jusqu'au 12 juin prochain. Un chercheur cité anonymement indique dans le Canard enchaîné qu'il y a, je cite, 90% de chance pour qu'Yves Lévy soit renouvelé de manière automatique, car Agnès Buzyn fait un chantage à la démission et il indique que le cas échéant, eh bien, il saisirait le Conseil d'État.
Et deuxième sujet cette semaine, des chercheurs américains sont parvenus à transférer la mémoire d'un apprentissage d'un escargot à un autre par le biais de l'ARN. Une réussite qui invite à repenser ce que l'on sait précisément de la mémoire et qui ouvre des perspectives assez sidérantes.
C'est fascinant. Il y a plus de 50 ans déjà, une première expérience de transfert de mémoire par le biais d'acide ribonucléique, donc ce qu'on appelle l'ARN, était déjà dévoilée, mais elle avait été discréditée aussitôt parce qu'elle présentait plusieurs biais méthodologiques. L'ARN est réputée pour intervenir dans la synthèse des protéines par les organismes vivants à partir des informations dispensées par l'ADN. Mais on sait qu'il remplit aussi d'autres fonctions très importantes. Il intervient dans la régulation de nombreux processus cellulaires impliqués dans le développement et dans la maladie, par exemple. Et David Glanzman, chercheur à UCLA, qui publie ses résultats très importants dans la revue YNeuro, voulait prouver qu'il joue un rôle déterminant dans la mémoire, ce qui pourrait expliquer notamment la conservation de certains apprentissages en dépit d'un système neuronal endommagé. Alors il a pour cela effectué une expérience en entraînant des escargots de mer qui ont tous des systèmes nerveux assez sommaire et tout à fait semblable d'un animal à l'autre, a provoqué un réflexe défensif, la contraction de la queue. Et voir si cette mémoire d'apprentissage pouvait se transférer par le simple biais de l'ARN, comme l'explique Alexis Bédécara. Il est post-doctorant dans ce laboratoire à UCLA et c'est l'un des co-auteurs de cet article.
On a stimulé la queue de ces animaux 2 jours d'affilée. On a ensuite testé, suite à ce protocole d'apprentissage, les réponses que l'on pouvait avoir. Et on a vu, de façon attendue, que le groupe qui avait été stimulé avait un réflexe de retrait qui était beaucoup plus important. On a ensuite extrait les ARN, donc ces molécules qui sont générées suite à un apprentissage. On a injecté l'ARN issu d'animaux entraînés chez des animaux naïfs. Et on a observé un jour plus tard que le réflexe était augmenté chez ces animaux de la même façon que dans le groupe entraîné. Donc, dans les ARN issus d'animaux qui ont subi un apprentissage, il semble y avoir quelque chose qui permet d'induire chez des animaux naïfs l'état comparable à celui d'un animal qui vient d'apprendre. En fait, ces phénomènes d'épigénèse, l'expression d'ARN important pour l'apprentissage était connue, mais c'était quelque chose qui était mis complètement au second plan de l'inscription de l'apprentissage dans le système nerveux à travers une augmentation de la connexion entre les neurones. Donc on pensait que c'était quelque chose qui se faisait de façon parallèle à l'apprentissage, qui était associé à l'apprentissage sans en être réellement la cause. Ce qui se passe maintenant, c'est que Plusieurs données montrent que non seulement ces modifications épigénétiques sont nécessaires à l'apprentissage, mais comme on vient de le montrer dans notre travail, elles sont suffisantes pour produire des modifications aussi puissantes que celles que peut induire un apprentissage. Et ça change complètement donc la place que ces modifications épigénétiques peuvent avoir dans notre compréhension de la mémoire et de l'apprentissage. Ces modifications basées sur les molécules d'ADN et non sur les contacts entre les neurones peuvent maintenir la mémoire de façon plus résistante encore que le renforcement des connexions qui, lui, peut être temporaire.
Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique Science Improbable, aujourd'hui bidet musique, puisque des chercheurs affirment avoir compris scientifiquement ce qui fait la différence entre un tube et un bide en musique.
Oui, alors voilà, on peut analyser une chanson et savoir si oui ou non elle entrera au hit parade, et même presque à quelle place elle est censée y entrer. C'est possible, en tout cas en partie, c'est ce qu'affirment des chercheurs de l'Université de Californie, qui publient cette semaine une étude dans la Royal Society Open Science, un article dans lequel ils expliquent qu'ils ont décortiqué plus de 500 000 chansons qui étaient au hit parade ou pas entre 85 et 2015 au Royaume-Uni, dans tous les genres de musique, la techno, le jazz, etc. Et ils les classent avec des tendances dominantes, tristes ou joyeuses, dansantes ou pas. Et ils expliquent qu'ils sont capables d'identifier les chansons qui vont le plus marcher. La chanson standard qui marche le mieux, elle est plutôt joyeuse, plutôt dansante. Et elle sera chantée par une femme, pour une fois que c'est sexiste dans ce sens-là. Ils ont en tout cas conçu un algorithme qui prévoit à 85% le succès d'une chanson. Bah, reste maintenant à la mettre en ligne, puisque pour que vous et moi, Nicolas, nous puissions conquérir le top 50 s'il existe encore.
Si ça peut, vous pouvez vous permettre d'arrêter d'écouter cette chanson de Sandra que vous nous avez infligée toute la semaine dans le bureau, ce
vous
serait déjà
terrible,
une bonne
si
raison.
Vous saviez. Un jour, on produira des enregistrements sur Internet de vous quand vous travaillez, Nicolas Martin.
Merci beaucoup, Zoé Svez. À la semaine prochaine.